Merci beaucoup. Rendez-vous pour le journal au complet dans une petite demi-heure. Tout de suite, c'est votre dernière grande table de l'année. Culture puis idées. On est ensemble jusqu'à 13h30. Bonjour à tous, la grande table se met aujourd'hui sur son 31 pour bien finir l'année avec des histoires de faussaires. Pourquoi nous fascine-t-elle tant? Qu'est-ce que tous ces scandales de faux racontent en creux du fonctionnement et des dérives du marché de l'art? Invité à partir de 12h55, le journaliste au Monde et spécialiste d'histoire de l'art, Harry Bellet, auteur de Faussaires illustres chez Actes Sud. Mais d'abord, si vous avez un discours à préparer pour la nouvelle année, si les repas de famille sont pour vous des grands moments de solitude, écoutez, après ça vous vous sentirez peut-être moins seul. Fabrice Caro, dit Fab Caro, est notre premier invité. L'auteur de Zaï 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 Zaï, Grand Prix de la Critique, revient avec un deuxième roman, Le Discours, et donne le la d'une nouvelle collection, Signe chez Gallimard, où les personnalités sont invitées à voyager d'un registre à l'autre. À écouter tout de suite sur France Culture, ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Le discours, c'est l'histoire d'une rupture, enfin plutôt d'une pause, demandée par l'amie, Sonia, du narrateur Adrien. Au bout de quelques semaines, sans nouvelles, il envoie un texto. « Coucou Sonia, j'espère que tu vas bien. Bisous !» Point d'exclamation. Ici commence l'attente, polluée par un discours que son beauf lui demande d'écrire pour son mariage avec Sophie, la sœur, avec laquelle le narrateur n'a pas grande affinité. Bonjour Fabrice Caro.
Bonjour.
De la difficulté d'arrêter d'aimer sur commande et de la difficulté d'écrire sur commande. Est-ce que c'est le plus dur pour vous quand on vous demande une copie?
Ah oui, c'est terrible. Ouais, ça renvoie un petit peu à l'école. Et puis ouais, ça rajoute une pression supplémentaire. Écrire comme ça naturellement tout seul, ça vient assez vite. Mais dès qu'on nous demande quelque chose, c'est terrible. C'est un cauchemar. Ouais.
C'est-à-dire que d'un album à l'autre, d'un album à ce roman, vous écrivez sans contrainte, vous écrivez quand vous avez envie, vous?
Oui, plutôt. Oui, oui. J'ai plutôt continué dans la BD ces dernières années, mais j'ai toujours continué à écrire. Donc ça m'a jamais lâché. J'ai toujours eu besoin de ça, vraiment des mots, parce que je crois qu'en BD, je suis un petit peu frustré de mots aussi. Il faut qu'on soit un petit peu synthétique pour pas que ce soit redondant avec l'image. Et du coup, je crois que ça me frustre un petit peu de pas pouvoir balancer du mot au kilomètre comme ça. Enfin, l'expression est pas terrible, mais c'est ça. Vraiment écrire.
Quelle est la dernière commande qu'on vous ait passée?
Dernière commande, elle est toute récente, c'est pour cette émission, on m'a demandé un truc horrible, on m'a demandé d'écrire un discours pour cette émission.
Mais un discours d'ouverture, je vous ai demandé, oui. Ou un discours de bienvenue à écrire dans le train qui vous conduisait de Montpellier jusqu'à nous. Est-ce que vous avez réussi à jeter quelques lignes sur le papier?
J'ai fait ça dans le train très très vite, alors je sais pas si j'ai réussi, j'ai fait ce que j'ai pu.
Vous pouvez nous le lire?
Oui, je vais essayer, en plus je lis très mal, ça va être terrible. Est-ce que vous accepteriez d'ouvrir l'émission La Grande Table par un discours? Pas très long, une dizaine de lignes, une sorte de clin d'œil. J'ai reçu ce texto tout à l'heure dans le train, alors que je me rendais à l'émission. Quand je l'ai découvert, j'ai été pris d'une crise d'urticaire. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Mon dos s'est enflammé, j'ai commencé à me gratter, frénétiquement. La dame à côté de moi dans le train me regardait en coin, et je me suis dit, elle doit croire que j'ai la gale. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, la gale. Je sais même pas si ça existe encore. Alors j'ai essayé de me gratter de manière un peu plus détachée, qui ne fasse pas trop gale. Un discours. Déjà, parler à la radio me tétanise. Je suis trop émotif pour ça. Je sais pas pourquoi je continue d'accepter ces invitations. Et voilà qu'en plus, on me demande d'ouvrir par un discours. Comme ça, tout seul, sans préambule, avec mes bouches sèches, ma salive qui fait des petits bruits, alors que je ne sais pas lire à haute voix, que je déteste ça, que je bute sur les mots. C'est un cauchemar. Tout ça démarre vraiment très mal. Je vous souhaite une bonne émission.
Bienvenue à vous, Fabrice Caro. Mais il n'y a aucune rature quasiment sur cette feuille.
Oui, c'est sorti.
Alors, soit vous avez recopié, soit vraiment, en fait, vous maniez très très bien l'art du discours et c'est sorti d'un jet.
Non, j'avoue, j'ai recopié, mais sur le premier jet, il n'y a pas de rature non plus. Bon, c'est pas non plus de la grande littérature, c'est venu assez vite. Le stress, ça a été moteur.
Alors, là, dans le livre, dans le discours qui paraît dans cette nouvelle collection Signe chez Gallimard, vous commencez tous vos discours, enfin votre narrateur, par cette formule qu'on connaît bien. Bonsoir à tous, je ne vais pas faire long, ne vous inquiétez pas. Il y a un peu le traumatisme de celui qui doit écrire un discours. Comment écrire un discours dans les règles de l'art? Est-ce que vous avez trouvé la formule?
Oh non, pour moi c'est un véritable cauchemar.
Et pourquoi c'est une épreuve?
Alors déjà parler devant des gens qu'on connaît pas forcément. Et il y a toujours la peur du faux pas, ou de mettre à côté, ou de faire une gaffe involontaire. Mais même sans aller jusque-là, ne serait-ce que parler, ouais, être le centre de l'attention, je trouve ça tétanisant en fait. Et en fait, cette histoire de discours, finalement, dans le roman, elle est pas primordiale. C'est plus, mais c'est une espèce de fil rouge angoissant comme ça. Un discours, pour moi, c'était le comble de l'angoisse.
Il y a cette idée de parler en public, et il y a cette idée de trouver les mots justes qui colleront bien à la personne ou aux personnes qu'on doit décrire. Vous dites que c'est un prétexte, l'idée du discours, mais ça lui permet effectivement de retracer toute sa relation avec sa sœur, avec son beau-frère, avec ses parents aussi. Tout ça sur fond donc de pause, d'attente. Il a envoyé ce texto sur un coup de tête à son ex-copine, qui l'est peut-être encore, on ne sait pas, c'est le principe de la pause dans une relation, et il attend désespérément un signe d'elle. Votre narrateur, Adrien, il est qui pour vous? Un perdant héroïque? Un loser attachant?
Alors comment le définir? Alors il me ressemble, j'allais dire hélas, il me ressemble un petit peu. C'est-à-dire, j'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage. Alors j'ose espérer qu'il est assez attachant. Je crois que c'est quelqu'un qui a du mal avec la communication, avec l'autre. Et même, je crois, par rapport à sa famille, je crois, c'est pas une charge contre la famille, c'est vraiment un constat d'incommunicabilité. C'est quelqu'un qui est assez pudique, qui aime sa famille, qui aime sa sœur, je crois qu'il y a de la tendresse qui se dégage de tout ça, mais qui n'arrive pas forcément à le communiquer. Quelqu'un d'assez timide, d'assez lâche aussi. J'ai mis pas mal de moi dans ce personnage.
Avec un principe d'autodérision qui fait votre patte, Fabrice Caro, vous vous moquez de lui, comme vous vous moqueriez probablement de vous-même. Il vous fait rire, du coup, aussi, votre narrateur, dans ce côté un peu pataud qu'il a, maladroit avec la vie.
Oui, ben oui, moi je trouve ça attachant, mais moi j'aime bien les choses qui réussissent pas, j'aime bien les gens qui arrivent pas, qui sont un petit peu névrosés, qui sont un petit peu fêlés comme ça, qui ont plein de failles. Les gens parfaits, c'est pas très intéressant. Cela dit, je sais pas si ça existe, les gens parfaits, je crois pas. Mais ouais, moi j'aime bien les gens qui ratent. Ça me fait rire, mais ça me fait rire tendrement. Moi je trouve ça attachant, je trouve ça beau. On essaie, puis on n'y arrive pas, et puis c'est pas très grave, quoi. On se relève et on continue. Moi, je trouve ça assez attachant.
En fait, vous aimez bien faire de l'humour à partir de tout ce qui ne se prête pas traditionnellement à rire. Le couple et la séparation dans le discours, la mort, les enterrements dans votre premier roman, Figurec. L'humour à contre-emploi, et plus, c'est peut-être pour vous le plus délicieux qu'il soit.
Ouais, oui. Mais moi, je vois ça comme une espèce de, j'allais dire une méthode de survie. C'est peut-être un petit peu fort comme mot, mais la vie, c'est une tragédie. On est là, je trouve ça assez tragique, la vie. On est là, on sait qu'on est là pour un temps fini. On va mourir. Tous les gens qu'on aime vont mourir. Donc, il faut se préserver. Oh là là, je plombe l'ambiance. Mais il faut se préserver de ça. Et je trouve que la dérision et l'humour, c'est le meilleur outil de survie, en fait. Et rire de choses les plus graves. C'est une façon de s'en préserver aussi. C'est une façon de se mettre dans une espèce de bulle douillette comme ça. Le matin, quand je me lève, j'ai besoin de me plonger dans l'absurde, dans le non-sens, pour me protéger du quotidien, je crois.
Et ça donne ça sur le papier. Je vais vous demander une lecture, nous lire vos mots, page 44. Et là, sur le moment, j'ai envie de mourir.
Et là, sur le moment, j'ai envie de mourir. D'un cancer du poumon, du sein, de l'estomac, du pancréas, des testicules, tiens. Il paraît que les cancers des testicules sont en recrudescence exponentielle depuis que les hommes se baladent avec leur portable dans la poche. Voilà. Mourir par ceux qui me rongent, périr par ceux qui me consument. Va jusqu'au bout, instrument du diable, achève-moi. Ne t'arrête pas en si bon chemin. À quoi ressemblaient les ruptures avant le portable? À quoi ressemblaient les chagrins d'amour filaires à cadran circulaire? On attendait des heures près du téléphone, à espérer que Lucille nous rappelle. On creusait les tranchées dans le salon, à force de l'arpenter de long en large. On vérifiait 20 fois de suite que le combiné était bien raccroché, car ça ne pouvait être qu'un incident technique. Il n'était pas envisageable que Lucille n'appelle pas. Et on finissait à genoux face au téléphone, comme devant une idole, mains jointes, priant pour que Lucille réalise qu'elle ne pouvait pas se passer de nous, et qu'il n'y avait rien d'autre à faire de plus important ce samedi soir que d'aller au cinéma, voir le cercle des poètes disparus avec nous. Vas-y, sonne, je t'en supplie, sonne, putain, je ferai tout ce que tu veux si tu sonnes. Et me revient en mémoire cet élève au lycée, Vincent, un type un peu patibulaire, toujours en retrait dans la cour, avec sa grande gabardine beige et ses dents gâtées, qui s'était pendu à la suite d'un chagrin d'amour. Avant le cancer des testicules, à l'époque du téléphone filaire, on se pendait. Tout ça est finalement très cohérent. La vie est bien faite, la mort aussi.
Extrait de Le Discours, le deuxième roman de Fabrice Caro, notre invité, publié dans la nouvelle collection Signes chez Gallimard. L'humour noir, l'absurde. Peut-être qu'en fait l'absurde est plus désespérant encore que le tragique lui-même, que le tragique au sens premier du terme. Quels sont vos maîtres en la matière, Fabrice Caro?
Oh, ça a été par période. Je crois que mon premier maître en matière d'absurde, ça a été Gottlieb, je pense, quand j'étais ado. Puis après, j'ai, en grandissant, les nuls, je pense, les Monty Python. Plus récemment, je suis assez friand de tout ce que fait Quentin Dupieux, J'aime bien Édouard Baird aussi, j'aime beaucoup Édouard Baird. Éric Judor, voilà, si, ouais, à peu près.
L'amour, victime du quotidien, comme dans Moins qu'hier, plus que demain, sorti cette année, une bande dessinée. Parce qu'au début, tout est toujours simple. Parce qu'au début, l'amour est gonflé de romanesque, écrivez-vous, maître de la vie dans la vie, insufflé du romantisme dans tout, comme dans cette scène d'un monde sans pitié où la tour Eiffel s'éteint sur un claquement de doigts. Tu aimais ça chez moi, ressasse le narrateur, ce romantisme échevelé, et tu as fini par le détester, comme mon t-shirt, comme mon odeur, comme le bruit qu'il fait, votre narrateur, Adrien. En avalant sa gorgée de café. Il n'y a pas d'amour heureux pour vous, Fabrice Caro ?
Amour heureux, oui. Enfin, je distingue l'amour et le couple. Enfin, pour moi, c'est deux choses différentes. J'ai dit la dernière fois dans une rencontre, c'est venu tout seul comme ça, j'ai dit que l'amour était au... Enfin, le couple était à l'amour, ce que la notice IKEA était à la poésie. Ça m'est sorti comme ça, c'est une image un petit peu bête.
Mais très parlante. C'est bon, on la voit.
Mais oui, non, l'amour c'est quelque chose d'absolu. Si, par définition, je trouve que c'est toujours beau. Le couple, c'est autre chose, il faut arriver à composer avec ça. C'est pas évident. Mais je trouve ça beau aussi que ce soit pas évident et que ça foire la plupart du temps. Je trouve ça assez joli aussi. On essaie.
On essaie. Et vous travaillez aussi beaucoup ce thème, hein, dans « Et si l'amour s'était aimé ?», sorte de Roméo et Juliette des temps modernes, amour impossible entre une femme adultère d'un patron et un livreur de petits plats à domicile. Vous explorez tout ce qui entrave ce sentiment, cette envie d'absolu que vous venez d'évoquer. Dans Discours, vous réalisez aussi une radiographie d'un repas de famille. Quelques-uns sont restés célèbres dans l'histoire du cinéma, dont celui d'un conte de Noël d'Arnaud Desplechin avec Henri, incarné par Mathieu Amalric. Extrait.
Enfin, Henri rompit le silence doux qui avait accompagné le début de repas. Jusque-là, son aspect était suffisamment hystérique pour qu'il n'y ajoutât pas de propos intempestifs. En début de repas, donc, Henri leva son verre pour porter un toast.
Comme le duc d'Orléans à son état-major en Espagne, évoquant, sans les nommer, Madame de Maintenant et Madame des Ursins, qui étaient ses ennemis implacables et folles. Messieurs, je vous porte la santé au con capitaine et au con lieutenant.
Le capitaine fut pour Junon et le lieutenant pour Elisabeth. Henri se rassit, il ne parla plus.
Bon débarras. Henri m'épuisait ce soir.
Voilà, exemple d'un petit discours autour d'une table, petit discours qui tourne mal. Henri a un peu trop bu et s'effondre avant d'être allé au bout de ce qu'il voulait ou devait peut-être raconter. On entend les rires de la famille autour. La famille n'est pas toujours le noyau, le cercle le plus bienveillant qu'on puisse avoir dans une vie.
Ça dépend. Moi, l'attente du texto, c'est quelque chose de très angoissant. C'est le vide, c'est vraiment c'est le grand vide. On est seul, et je voulais que ce soit accentué par un cadre assez anxiogène en fait, avec une unité de lieu et de temps. Je cherchais un cadre anxiogène.
Et pour moi, c'est le repas de famille.
Et le repas de famille, je crois qu'il n'y a pas plus anxiogène que ça. J'espère que ma famille m'écoute pas à l'heure qu'il est. Mais je trouvais que ça créait une espèce ça accentue encore plus le vide. Oui, parce qu'en plus, c'est une famille. Alors, il y a plusieurs types de familles. Il y a des familles comme ça, qui sont peut-être plus slaves, plus italiennes, tout se dit, tout explose, il y a des règlements de compte à table, des choses comme ça. Et puis, il y a des familles, comme celle du discours, où on est dans le non-dit, dans la pudeur, où tout se met sous le tapis, comme ça, puis on avance comme ça. Et quand on a, comme ça, un problème de cœur, évidemment, on peut pas le partager avec ses parents. Donc, ça reste, ça accentue le décalage. Il est coincé là, je voulais ce sentiment vraiment d'enfermement avec une famille, encore une fois, qu'il aime beaucoup, mais avec qui il ne partage pas beaucoup de choses, finalement.
Il est coincé là, il est coincé dans son monde intérieur, la voix off d'un narrateur témoin dans cet extrait d'un conte de Noël. Vous la remplacez par la voix intérieure de votre narrateur, Adrien, qui se lance dans de longs monologues pendant que la conversation bat son cours autour de la table. Ces repas de famille, vous dites qu'il y a quelque chose d'anxiogène aussi, parce que chacun est renvoyé à ce qu'il est ou ce qu'il doit être face à ses ses parents. Extrait de Le Discours. Dans les repas de famille, par ma faute, nous avons toujours été un nombre impair à table. Je suis celui qui ne vient pas par deux. Je ne suis qu'une moitié d'identité. Quand j'arrive, on jette un coup d'œil furtif par-dessus mon épaule pour vérifier qu'il n'en manque pas un morceau. Voilà, j'ai toujours été un impair. À cause de moi, on a du mal à couper le gâteau en succession de diamètres. Il faut se creuser la tête, élaborer des savants calculs collectifs, mais après maintes interventions où chacun donne sa solution mathématique du partage, on en revient toujours au diamètre et reste toujours cette part dans l'assiette que personne ne veut, non pas par une sorte de cote de politesse, mais parce qu'elle transpire une solitude dont on craint qu'elle ne soit contagieuse. Extrait de votre discours, Fabrice Caro, sur les dimensions autobiographiques de ce roman, vous l'avez déjà évoqué, vous vous êtes inspiré beaucoup, un peu, passionnément, de ce qu'est votre vie à vous, de vos relations amoureuses, de votre famille aussi.
Oui, le rapport à la famille est un petit peu... il ressemble beaucoup à ça. D'ailleurs, je voulais pas que mes parents le lisent, en fait. Je m'étais dit... je voulais leur cacher la sortie du roman. Je m'étais dit, bon, et tous les romans qui sortent, ça passera inaperçu. Bon, manque de peau, c'est pas passé si inaperçu que ça. Et ma mère l'a su, j'étais obligé de lui offrir. Mais j'étais tétanisé. Quand je lui ai donné, j'étais tétanisé. Bon, au final, elle a beaucoup aimé, mais elle a, voilà, il s'est passé ce que j'appréhendais un petit peu, c'est que ça me ressemble tellement, et les rapports avec la famille me ressemblent tellement... qu'elle a eu du mal à faire la part des choses entre fiction et réalité. Alors j'avais beau lui dire non, mais c'est une fiction, elle me disait oui, je sais, mais pourquoi tu écris que je te conseille du jus d'orange, je t'ai jamais dit ça. Je voyais qu'elle avait beaucoup de mal à faire la part des choses. Mais justement parce que ouais, le lien qu'il a qu'Adrien avec sa famille ressemble beaucoup au lien que j'ai moi, c'est-à-dire un lien de tendresse mais assez pudique en fait, où il se dit pas beaucoup de choses.
Comme vous êtes né en 1973, que vous ne pouvez pas avoir grandi sans écouter Dire Straits, extrait du nouvel album de Mark Knopfler, l'ex-leader du groupe, qui vient de sortir donc son 9e album solo. Il s'appelle Down the Road Wherever.
When I was just a boy, I'd be kicking a tin, take a shortcut home through the loony bin. I never gave much thought to the souls in there. I was just a boy, too young to care. Well, the years go by and you get to see a dream's not the same as reality. Oh, well, a dream or two is gonna crash and burn, and that's the way that you live and learn.
Ça vous a plu, Fabrice Caro ?
Ouais, j'aime beaucoup. Oui, moi j'étais resté à Dire Straits, j'ai pas trop suivi Mark Knopfler tout seul, mais j'aime beaucoup.
Et vous n'avez encore rien vu, ce titre semble avoir été écrit pour vous. Il s'appelle Just a Boy Away from Home.
Oh.
France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert.
semblerait, Fabrice Caro, que vous commencez souvent des romans que vous ne finissez jamais. Celui-ci, est-ce qu'il vous semblait visiblement suffisamment abouti pour être publié, le discours ? Est-ce qu'il est pour autant fini, d'ailleurs ?
Alors, abouti, peut-être pas, mais je crois que ce qui me bloquait dans l'écriture, moi, j'aimais tout ce qui était introspectif. J'ai réalisé ça après plusieurs débuts de romans. J'adorais écrire tout ce qui était introspectif, mais dès qu'il s'agissait de faire avancer l'action, je perdais un petit peu de plaisir de l'écriture. Et pour moi, c'est le seul truc qui compte, vraiment garder l'excitation et le plaisir. Et là, je me suis dit, pourquoi pas assumer de faire un truc totalement introspectif, en fait. Donc, après, une fois que j'ai assumé ça, de faire un truc introspectif, ça s'est déroulé assez bonne manière, assez naturelle, en fait. Je l'ai écrit assez vite. Et est-ce qu'il est fini? Alors, justement, c'est marrant, parce que quand on écrit comme ça, quand j'ai passé 3-4 mois avec Adrien, là, le roman est fini. Et puis, j'ai pas envie de quitter Adrien. Je m'y suis attaché, je crois.
Pourquoi faire les choses? Pourquoi écrire? Vous parlez toujours de cette notion de plaisir. Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, autour du rire, imaginer que ce que vous écrivez doit d'abord vous faire rire, vous? C'est-à-dire que vous cherchez pas forcément la blague attendue qui pourra faire rire le lecteur, que vous essayez d'abord de vous surprendre?
Oui, moi je travaille de manière assez égoïste. Enfin, je crois que l'écriture ou autre chose, mais c'est très égoïste. Moi, je fais ça pour moi, et au contraire, j'essaie de m'affranchir du lecteur. Quand j'écris ou quand je dessine, j'essaie surtout pas de penser au lecteur, parce que je crois que c'est dans ces cas-là qu'on se perd, ou qu'on est consensuel, ou qu'on fait des choses qui... Moi, j'essaie avant tout de m'amuser. Je me dis, j'ai la chance de faire un boulot que j'ai choisi. L'idée, c'est de rester excité, donc j'essaie de m'amuser moi. Et puis, si le lecteur s'amuse aussi, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas... J'essaie de m'affranchir de ça, j'y pense pas en tout cas.
Est-ce que vous avez peur parfois de l'avis, de la réception de vos lecteurs, du public? Je vous propose d'écouter les mots du dessinateur italien J.P. à ce propos.
Jusqu'à il y a peu de temps encore, j'avais vraiment très peur. De l'avis du public, et je recherchais toujours l'amour auprès de personnes que je ne connaissais pas. Et ceci a conditionné également ma façon de travailler. Et puis, après l'âge de 50 ans, cette chose devenait vraiment pathétique, donc j'ai vraiment voulu arrêter de le faire. Ça m'arrive toujours. Lorsque je termine un travail, je pense toujours avoir écrit quelque chose de horrible et d'illisible. Mais probablement parce que mon goût change au fur et à mesure que je travaille. Et surtout, par le passé, je travaillais un petit peu sur l'urgence. Et une fois que l'urgence était passée, les choses ne m'intéressaient plus. Et surtout, lorsque je regarde mes livres, je n'arrive pas à voir les dessins. Je ne lis que les mots. Et donc, si par exemple j'ai mis 2 ans et demi pour faire une BD et je ne lis que les mots, je le lis en 3 minutes. Et donc je me sens très stupide. Et surtout, je ne ressens pas les émotions. Et j'espère en revanche que ces émotions sont suscitées chez les personnes qui lisent mes dessins.
Alors voilà, comme vous, il parle de l'importance des mots, cette gourmandise et ce besoin de mots qu'il a eu, ce qui explique aussi votre passage au roman sur ce rapport au public. Dans « Et si l'amour c'était d'aimer », vous vous moquez avec tendresse de la tradition des romans photos, il y a notamment cet échange entre Sandrine et Michel, le livreur de plats à domicile. Il lui demande « Vous avez la carte de fidélité ?» Elle répond « La fidélité, est-ce si important ?» Quand même, au bout de 10 Macédoines, vous en avez une gratuite. Ça, c'est la réponse du livreur. Et il a peut-être assez raison sur cette question de la fidélité. Comment vous travaillez, vous, la fidélité de votre public, de vos lecteurs ?
Alors, je ne sais pas si je le travaille. Enfin, j'essaie de faire des choses qui me ressemblent, moi, en espérant que les gens qui aiment bien mon boulot se retrouveront dans ce que je fais. Mais non, c'est marrant ce que disait J.P., J'ai adoré. Mais moi, il y a vraiment 2 phases distinctes dans mon travail. Pendant que je suis dans la phase de création, je pense pas du tout à la réception du livre. Mais une fois que j'ai envoyé mes pages à l'éditeur et que ça va devenir un livre, c'est là que je me pose la question du « Ah, mince, ça va être lu, en fait ». Mais avant, j'y pense pas et j'essaie de pas y penser, justement, parce que j'aurais peur que ça fausse. Je crois que pour pas être dans la séduction, je crois qu'il faut pas être dans la séduction par rapport au lecteur. Il faut faire quelque chose qui nous ressemble. Voilà, lecteur...
ni dans la trouille qu'évoquait J.P. peut-être,
oui,
aussi,
oui,
qui
oui,
peut
aussi.
Être paralysante.
Ouais. Oui, ça peut être paralysant, c'est pour ça que j'essaie de ne pas y penser aussi, de ne pas me mettre de pression. D'abord m'amuser, et une fois que j'ai rendu mes pages, là il y a la place pour la trouille et pour tout le reste.
Zaï, 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 zaï. C'est un succès, cette bande dessinée que vous avez scénarisée et dessinée, Fabrice Caro. Bientôt une version sur grand écran, peut-être aussi bientôt au théâtre. Le pitch est assez simple. C'est là encore une histoire de carte de fidélité. Un auteur de bande dessinée fait ses courses au supermarché, mais au moment de payer, il réalise qu'il a oublié sa carte de fidélité. Après un rapport tendu avec le videur dans sa fuite, parce qu'il va la prendre, il se retrouve poursuivi par son époque. Fabrice Caro, l'époque actuelle, est-ce qu'elle manque beaucoup de grandeur ou au contraire d'autodérision pour vous ?
Elle manque de légèreté en tout cas, c'est pour ça que j'essaie d'en insuffler un petit peu à ma modeste mesure dans tout ce que je fais, en tout cas dans ma vie à moi. Mais je la trouve assez anxiogène à l'époque. Je trouve que ça me manque de, j'allais dire, de fantaisie. Avoir le goût de la fantaisie, c'est un luxe, encore faut-il avoir... être libéré de pas mal de contraintes pour avoir le goût de la fantaisie. Il y a des gens qui pensent même pas à la fantaisie. Moi, j'ai cette chance-là de chercher la fantaisie dans tout ce que je fais, dans la vie. Mais ouais, je trouve assez anxiogène cette période, cette époque. Et en même temps, quand je repense à mon enfance, par exemple, les années 70-80, on a toujours tendance à idéaliser tout ce qui est passé. J'ai tendance à être plutôt optimiste, finalement. Je me dis, c'était pas mieux avant. C'était, au contraire, c'était pire. Moi, j'ai des souvenirs des années 70-80 où le climat était... encore plus, je sais pas, l'homophobie était plus présente, le racisme était beaucoup plus présent. Alors certes, tout ça subsiste, mais malgré tout, je trouve qu'on va vers du mieux, tout va de mieux en mieux.
Et quand vous voulez réagir, vous faites quoi ? Vous mettez un gilet jaune ou vous prenez votre crayon
Je suis pas très militant, non. Je pense que ma façon de réagir à moi, c'est ça, c'est de passer par de faire des livres, de biaiser un petit peu, de passer par, c'est ça, par la dérision, par l'absurde, par le non-sens. C'est aussi une manière de me protéger moi aussi. Mais... donc c'est pas militant, c'est jamais ouvertement militant, mais Zaï Zaï, pour moi, c'était ma petite politique à moi, c'était ma petite BD politique à moi, c'est-à-dire une espèce de constat sur le monde, mais de manière un petit peu détournée.
On termine avec une question posée par le livreur de Macédoine à domicile. Et si l'amour c'était d'aimer, extrait de cette bande dessinée-là, un artiste qui ne dénonce pas les injustices, est-il encore un artiste ?
Oui, je pense. Oui, oui.
Elle est bien cette question.
Oui, elle est bien.
Un livreur journaliste, presque.
Oui, moi j'aime bien le non-sens pour le non-sens aussi. Enfin, je crois que ça fait du bien aussi le non-sens. La vie n'a pas de sens et on en cherche toujours. On est toujours en train de chercher du sens. Des fois, c'est bien qu'il n'y ait pas de sens aux choses. Vraiment, la beauté du geste. Je trouve qu'on manque de choses gratuites. Et, ouais, la beauté du geste, des choses qui n'ont pas de sens. Je trouve que ça fait du bien aussi.
Alors merci pour la beauté du geste, pour le discours que vous avez écrit pour nous, Fabrice Caro, et pour ce discours, le discours roman qui paraît à la collection Signes chez Gallimard. Merci à vous.
Merci à vous.